croisés. Chers auditeurs de Forum Opéra et Cobuz, bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée non pas à un artiste, mais plutôt à tout un ensemble, tout un orchestre, les talents lyriques dont on fête cette année les 20 ans. Alors évidemment, je reçois son fondateur et directeur musical Christophe Rousset, et puis interviendra en guest star la metteur en scène, je ne sais pas si... Comment vous appelez ?
Je ne sais pas non plus. Je ne sais toujours pas.
Mariam Clément, qui a collaboré avec Christophe Rousset sur deux productions d'opéra de Rameau, Platée à l'Opéra du Rhin, puis Castor et Pollux au Théâtre an der Wien. J'ai l'habitude de présenter mon invité, mais cette fois-ci, on va peut-être plutôt laisser tout de suite la parole à ce dernier. Christophe, dans l'élan d'Atis, beaucoup de vos collègues ont créé leurs ensembles. Vous, vous avez attendu 4 ans avant de le faire. Pourquoi ?
Peut-être parce que j'avais pas l'envie d'en créer un, tout simplement. C'était pas du tout mon ambition. Moi, j'étais très bien en Éminence Grise, aux Arts Florissants, derrière mon clavecin. J'avais pas cette idée même de cette ambition de vouloir créer mon groupe. Puis en plus, j'étais plutôt bien traité aux Arts Florissants. On me laissait faire ce que j'avais envie de faire. J'étais très comment dire. J'avais une place très enviable dans le groupe. Il a fallu que William me pousse vraiment. Dans les sentiers de la direction, d'abord en dirigeant un petit ensemble vocal qui s'appelait les Arts Florissants Juniors, d'ailleurs, à l'époque, où il y avait des Sandrine Pio, des Véronique Jans, Jérôme Coréas et autres. Et puis finalement, ça a terminé en 91 avec une production à l'Opéra Comique qui était La Fée Urgel de Duny, avec une mise en scène de Villégier, qui est donc le même metteur en scène que celui qui avait fait Atis. Et de diriger de l'opéra, j'avoue que je me suis senti des ailes poussées et j'avais vraiment envie tout à coup de créer moi-même mon propre groupe. Pourquoi créer son propre groupe dans ces cas-là ? C'est-à-dire, c'était plutôt pour choisir un répertoire, pour me débarquer très nettement des Arts Florissants, avoir des artistes que je choisirais moi-même et un répertoire que je choisirais moi-même. Et c'était un peu l'idée en créant les talents lyriques.
Se démarquer, ça s'est fait comment ? Le choix de répertoire ?
J'avais envie surtout d'explorer le répertoire napolitain. C'était vraiment la chose qui me tentait le plus. Je l'avais un petit peu fait d'ailleurs avec un premier programme avec les Arflo Juniors. On avait fait une Pâque napolitaine comme ça, avec une Passion selon Saint-Jean de Scarlatti et puis quelques Léo que j'ai récupéré après pour en faire le disque qui a été fait chez Decca. L'ambition, c'était effectivement d'aller vers Iomeli, vers Traetta, vers Léo, vers Porpora, etc.
Et qu'est-ce qui justement vous a amené du clavecin, de l'instrument, à cet art vraiment purement vocal pour le coup chez les Napolitains ?
C'était l'amour pour l'opéra que j'ai eu très tôt. J'ai grandi à Aix-en-Provence, j'ai étudié le clavecin à Aix-en-Provence. J'ai eu cette envie d'opéra très, très tôt. Et je pensais que l'opéra, ça s'assouvirait essentiellement en faisant des récitatifs, en étant claveciniste tout simplement. Je pensais jamais être le maître d'œuvre. Quand j'étais à Aix-en-Provence, j'assistais à des représentations du Carnaval de Venise, de Campra, de Così fan tutte et d'une Alcina de Händel. J'avais vraiment une envie très forte d'être à la place du claveciniste et de pouvoir faire partie de ce monde merveilleux de l'opéra. Et voilà, le fait de diriger de l'opéra a été évidemment une chose un petit peu improvisée, quoi, parce que ce que j'avais fait aux Arts Florissants, c'était essentiellement de la musique française et j'avais pas participé à l'opéra seria. J'avais des idées très précises sur l'opéra seria. J'avais été très très inspiré par un disque d'opéra seria, enfin d'air d'opéra de Händel d'ailleurs par Marilyn Horn, curieusement, parce que je trouvais qu'elle avait certes pas le style d'Emma Kirkby ou de d'autres spécialistes de la musique ancienne, mais elle avait une vocalité et une audace que je trouvais juste par rapport à ce répertoire-là. Et je pensais que on faisait beaucoup Händel avec des gants blancs et des perruques poudrées, et j'avais envie vraiment d'y aller beaucoup plus fort, de faire des da capo complètement insensés, d'avoir des cadences tout à fait folles, d'avoir une vocalité un peu plus marquée.
pour faire ça, justement, vous avez mis, par exemple, Sandrine Pio, qui n'avait pas vraiment chanté cette musique, vous lui avez mis le pied à l'étrier dans Handel, par exemple.
Voilà, c'était son premier Handel. C'était le Scipione qu'on a fait pour Fnac Musique à l'époque et pour le Festival de Beaune. Et ça a été pour nous une espèce de coup d'envoi que j'ai réécouté puisqu'il est ressorti il n'y a pas très longtemps chez Aparté. Et j'étais très, très surpris en réécoutant la bande, parce que évidemment, je ne réécoute pas beaucoup mes disques, moi. J'ai été très surpris de voir l'audace dont j'avais fait preuve sur les tempi, sur les choix d'interprétation, etc. J'étais finalement assez content de tout ça. Et effectivement, donc Sandrine était pour la première fois propulsée dans ce bel canto et qu'elle illustre encore aujourd'hui avec art et bonheur.
Et où est-ce que vous allez chercher ces voix? Comment vous trouvez ces voix qui mêlent justement audace et correction stylistique?
J'auditionne beaucoup de chanteurs. Je vais beaucoup écouter. Je suis très à l'affût des nouvelles voix. C'est comme ça que par exemple, on a une Petit Bon qui a fait son premier disque avec nous sur l'Armida Abandonata, par exemple, de Iomelli. Qu'on a une Paul Verelli aussi pour la première fois sur disque. Eva Godlewska pour la première fois sur disque, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont fait leur premier pas lyrique avec moi. J'en suis très fier et surtout j'ai beaucoup de chance de les avoir évidemment avec moi. Donc j'auditionne beaucoup et puis les jeunes voix sont souvent des voix qui sont malléables, qui sont en demande aussi d'être modelées par un chef. Je le dis souvent, moi j'aurais bien aimé être chanteur moi-même, j'ai pas la voix pour ça, vous l'entendez au micro d'ailleurs. Pour cette raison-là, j'ai l'impression de pouvoir chanter au travers des voix des différents chanteurs avec lesquels je travaille. Et donc je suis très interventionniste et j'ai été interventionniste même avec une Nathalie Dessay quand on avait fait Mithridate ou avec une Von Hunter quand on a fait un Alcina à Drottningholm. J'hésite pas à aller vraiment dans le technique et les couleurs de voyelles, les couvertures, d'une façon générale ça se passe plutôt bien. J'ai eu deux échecs que je peux citer d'ailleurs, c'est avec Nathalie Stutzmann avec qui on s'est pas du tout entendu et Barbara Bonnet avec qui on s'est pas du tout mais du tout entendu.
Qu'est-ce qui vous séduit dans une voix? C'est un timbre? C'est un
tempérament? C'est le timbre, avant tout. Oui. C'est le timbre. J'adore le bel canto. Je pense que c'est vraiment de ça qu'il s'agit à partir déjà de Monteverdi, mais surtout de Handel. Et le bel canto, ça veut dire du beau chant. Et le beau chant, ça passe avant tout par un beau timbre, par une qualité, par un tissu qui fait que tout à coup, le matériau musical devient sensible, devient tissu tout simplement et chatoyance et luxuriance et je ne sais quel adjectif mettre par-dessus mais en tout cas c'est ce timbre qui pour moi est l'essentiel et après de ce timbre je façonne, je me fais fort d'arriver à trouver une façon de m'en sortir dramaturgiquement si j'ai pas de metteur en scène aussi génial que Mariam à côté de moi ou pas de metteur en scène du tout en version concert et à ce moment-là on s'improvise metteur en scène soi-même et puis on trouve une dramaturgie, on les amène dans ça. C'est difficile de transformer du sable en or quand on a une voix qui n'est pas jolie du point de vue du timbre. On ne peut pas arriver à en faire grand-chose. Ça m'est déjà arrivé et ça me rend extrêmement malheureux.
Deux belles voix dans le premier extrait qu'on va écouter, qui provient de l'opéra Tamerlano de Handel. Alors la particularité aujourd'hui, c'est que tous les extraits que nous allons écouter proviennent des archives des talents lyriques. Donc je les remercie beaucoup de les avoir ouvertes pour nous. Donc ce Tamerlano a été enregistré au Théâtre du Châtelet le 13 novembre 2005. C'était au cours de cette journée marathon qui vous a vu enchaîner justement Tamerlano l'après-midi et Alcina le soir. On écoute donc le duo Vivo in Te avec Sandrine Pio qui interprète Asteria et Patricia Bardon qui est Andronico. Voilà. C'était le duo Vivo Inte, extrait de Tamerlano de Handel, dirigé par Christophe Rousset avec ses talents lyriques et chanté par Sandrine Pio et Patricia Bardone. Vous disiez avoir voulu vous démarquer des arts florissants en creusant le versant italien du répertoire baroque, mais il y a aussi tout un pan de répertoire sur lequel vous vous croisez. C'est le répertoire français à partir de Lully. Quand on a fait ses armes, ses classes, dans la fosse avec William Christie, quand on aborde Lully, on se sent comment ?
On se sent armé, justement. ce qui a fait que Lully a été un effet de bombe avec Attis, qui est repris d'ailleurs cette année, c'est qu'il y avait une maturité du style chez William Christie et César Florissant qui était tout à fait étonnante. Il se trouve que moi, j'avais participé un petit peu au jeu de laboratoire au Conservatoire de Paris en accompagnant sa classe, et j'avais donc vu un petit peu les sources qu'il citait, la façon dont il s'y prenait, etc. Et j'avais été passionné par ce travail. J'avais trouvé ça tout à fait étonnant. Ça m'avait nourri moi-même pour mon interprétation de la musique française au clavecin. Et j'ai été aussi incroyablement nourri par les interventions de Francine Lancelot sur Attis, qui, avec la danse, m'a appris énormément de choses. Et la musique française, c'est certes la langue française, mais c'est aussi la danse, beaucoup. Le pas de danse, le tempo de gavotte, le tempo du menuet, la chaconne, etc. Enfin, il y a beaucoup de, comment dire, de références chorégraphiques dans la musique française qui font que si on ne reconnaît pas la danse qui est derrière le titre d'une pièce de François Couperin ou de Rameau ou des autres, on passe à côté de l'essentiel. Et cet essentiel, c'est l'architecture, c'est une puissance rythmique, c'est une structure, une carrure qu'il convient de reconnaître, et qu'évidemment un musicien ou un amateur du 18e reconnaissait immédiatement. Donc c'est un enseignement qui a été extrêmement précieux pour moi. Évidemment, j'en suis gré à mes prédécesseurs que sont Francine Lancelot et William Christie. Et j'ai pas fait du Lully tout de suite. J'ai attendu que ça se décante, et j'ai attendu de prendre mes distances et de remarquer aussi que William Christie, depuis Attis, n'a pas fait beaucoup de Lully, et que justement j'ai pu m'emparer de ce butin qui est un filon absolument extraordinaire. On a tous été dans la fosse, mais dans le public aussi, éblouis par Attis. Et c'était encore plus éblouissant de voir qu'il y avait des trésors qui dormaient, et en particulier le Persée, que je trouvais un vrai chef-d'œuvre et que personne n'avait encore abordé. Donc je me suis lancé là-dedans avec une joie absolument infinie. Et puis après, ça a été Roland, et puis après, ça a été le Bellérophon. Mais c'est toujours avec Lully une joie incroyable, parce qu'il y a, comme on le disait d'ailleurs déjà à l'époque, au XVIIIe siècle, il y a une espèce de fraîcheur, de naturel, qui est tout à fait confondant. On a l'impression que tout ça coule très très naturellement. Il y a pourtant un art et une sophistication tout à fait étonnant dont on n'a jamais épuisé les ressources. Et voilà, donc moi je suis très content, j'espère pouvoir continuer avec Lully.
Alors, même si Lully est un peu plus présent maintenant sur les scènes d'opéra, des trois opéras que vous avez dirigés, il y en a un seul qui a été fait avec mise en scène. Pourquoi est-ce que les directeurs de théâtre sont frileux vis-à-vis de Lully?
D'abord parce que ça coûte beaucoup d'argent. Le problème, c'est que c'est l'opéra français, c'est...
Mais ils le sont peut-être moins avec Rameau.
Ils le sont moins parce que y a chez Rameau quelque chose de très tape à l'œil et qui fonctionne de façon absolument, irrésistible. Chez Lully, il y a un ton de noblesse Louis XIVienne qui passe aussi par du tragique, un côté grand siècle, dont les directeurs de théâtre ont peur, à mon avis, de façon tout à fait illégitime, parce que la dramaturgie chez Lully est quelque chose d'absolument étonnant. Et le texte est toujours d'une très très grande beauté, ce qui n'est pas le cas avec les livrets de Rameau, en tout cas souvent pas, on va dire. Évidemment, Platée fait un peu exception, mais ces tragédies lyriques sont vraiment souvent pompeuses, un petit peu pauvres du point de vue littéraire. Et chez Lully, c'est jamais le cas. On est toujours en présence de textes tout à fait étonnants. étonnant, qui fonctionne merveilleusement du point de vue théâtral, qui, à mon avis, captive un public. Pourquoi ? Oui, parce que les moyens en œuvre sont avant tout pléthoriques. Il faut avoir de la chorégraphie, il faut avoir des changements de costumes, il faut avoir de la machinerie si c'est possible, etc. Et ça fait beaucoup d'argent et en général, c'est ça qui rend les directeurs frileux.
Justement, vient de paraître chez Aparté, Bellérophon, que vous avez enregistré à la Cité de la Musique en décembre dernier. Vous disiez dans le livre des 15 ans des talents lyriques, je fais attention quand je choisis mes titres à ne pas prendre par exemple un Bellérophon qui est pour moi un titre un petit peu indéfendable parce que justement ce sont des histoires qui sont loin de nous. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?
Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est que ce Bellérophon était le dernier opéra de Lully qui n'avait pas été fait à l'époque moderne. Et c'est vrai que je trouve toujours le titre de Bellérophon tout à fait invendable, mais apparemment ça se vend quand même. Donc je suis ravi de cette pirouette et de ce pied de nez qui m'est fait. Mais après tout, je me le suis fait moi-même. Je pensais qu'effectivement, mais il y en a d'autres, des titres qui sont absolument impossibles, comme Tétis et Pélée de Colas. Je veux dire, vous avez envie d'écouter ou d'acheter ce disque-là. Moi, je sais pas, je suis un peu réticent sur un certain nombre de titres sur lesquels en plus on peut faire des contrepéteries faciles. Voilà, moi je Bellérophon, ça me disait rien comme ça, mais c'est vrai que quand j'ai mis mon nez dans la partition et quand j'ai vu que c'était une affaire à saisir, je me suis précipité et j'ai pas été déçu, donc ça me fait plaisir de voir que non seulement le public français l'apprécie, mais même à l'étranger, je vois que le disque est primé en Angleterre. Quand on a fait le concert à Vienne de ce même Bellérophon, ça a été un triomphe, les gens étaient debout, ils cassaient tout, alors que Lully, franchement, a priori, ça provoque pas ce type de réaction.
Et le livret n'est pas de Quinault, mais de Thomas Corneille. Enfin, apparemment, d'autres y ont mis aussi la main. Est-ce que ça change quelque chose ?
Oui. Curieusement, ça change quelque chose. Les récitatifs ne sont pas écrits de la même façon que les récitatifs dont le texte est de Quinault. Pourquoi je me suis pas assez interrogé du point de vue littéraire là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est amusant, c'est que curieusement, un autre livret écrit par Thomas Corneille, c'est celui de Médée, de Charpentier. Et finalement, les récitatifs de Bellérophon sont plus proches de ceux de Médée qu'ils ne le sont d'un Attis ou d'un Percé ou d'un Roland. Allez chercher pourquoi. Peut-être simplement que Charpentier était dans l'équipe lui à l'époque, j'en sais rien. En tout cas, il y a quelque chose qui est d'une autre essence et d'une autre teneur. Et c'est amusant de le remarquer parce que justement, le librettiste est différent.
Et est-ce que les personnages de Corneille, Thomas Corneille, ont la même consistance que ceux de Quinault ?
Moi, je suis très attaché à Quinault, peut-être comme Lully, mais en tout cas, je trouve le livret de Bellérophon un petit peu hâtif. Évidemment, ça en fait un avantage qui est la brièveté, la concision, qui fait que Bellérophon tient en deux disques et il tient dans un concert assez court, alors que d'une façon générale, à Lully, ça dure bien 3 heures, si ce n'est 3 heures et quart. Donc là, on est dans quelque chose de plus urgent et qui donne effectivement un côté plus resserré, qui est peut-être plus acceptable, plus perceptible facilement par un public moderne qui est toujours un peu plus pressé.
L'urgence, on la ressent au moment où Bellérophon, justement, va combattre la chimère. On va écouter Cyril Ovitti, qui incarnait le rôle-titre de Bellérophon. Dans ce disque paru chez Aparté, c'est le seul extrait qui ne sort pas des archives. Nous écoutons Cyril Ovitti dans l'air « Heureuse mort, tu vas me secourir ». C'est évidemment les talents lyriques et Christophe Rousset. Plus qu'à mourir. C'était un extrait de Bellérophon de Lully, interprété par Cyril Ovidi, Les Talents Lyriques, et Christophe Rousset, mon invité. Alors, après Lully, il y a Rameau, plus tape à l'œil, vous disiez. J'ai souhaité avoir avec vous un metteur en scène, donc Mariam Clément, qui vous a accompagné dans deux aventures récentes, Platée et Castor et Pollux. Mariam, la forme, c'est une grande contrainte pour mettre en scène la tragédie lyrique ou le ballet bouffon d'ailleurs.
La forme, c'est toujours une grande contrainte à l'opéra, de manière générale. C'est ce qui fait que j'aime l'opéra, c'est les contraintes. C'est ce qui fait que j'aime particulièrement, enfin que j'ai particulièrement aimé travailler sur du Rameau, c'est que les contraintes sont encore plus fortes que les opéras dont j'avais l'habitude. Oui, bien sûr, ne serait-ce qu'à cause du ballet, qu'on peut traiter de manière diverse. On l'a vu avec les exemples de Platée, Castor et Pollux. Et puis, bien sûr, la tragédie lyrique, où ce sont des formes qui sont... Christophe Aboudir, peut-être que Rameau est un peu tape à l'œil, ce sont des formes qui ne sont pas toujours facilement accessibles au public d'aujourd'hui.
Sans aller jusqu'à actualiser, vous aimez mettre... dans un contexte contemporain.
Oui.
Mais ce n'est pas systématique.
Ce n'est pas systématique du tout. Non, 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 non. Il m'est arrivé de faire des opéras en costume, comme on dit. Je ne sais d'ailleurs pas très bien ce qu'on entend par là. Actualiser, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup, parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mettre en scène, d'une certaine manière, ça veut dire actualiser, puisque ça veut dire rendre compréhensible ou digeste ou émouvant ou touchant pour un public actuel, enfin contemporain, une œuvre qui ne l'est pas par définition. Donc toute mise en scène est une actualisation parce qu'on est dans l'actualité quand on fait de la mise en scène. Ce sont des arts vivants, donc pour un public contemporain. Voilà, c'est la palissade, mais c'est bon de le rappeler. Cela dit, actualiser, ça peut très bien se faire en costume, justement. En costume, oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça serait quoi les costumes pour Platée? Ça serait des costumes de l'époque de la création, ça serait des costumes de l'époque du livret. Qu'est-ce que c'est l'époque du livret? Comment les gens s'habillaient? Jupiter, Junon étaient habillés comment? Je n'en sais rien. Je ne les ai pas rencontrés. il se trouve que Platée comme Castor et Pollux, on les a montés en costumes modernes, enfin disons 20e siècle. Voilà. Mais c'est absolument pas un a priori ni une recette systématique, non, pas du tout. C'est un hasard à chaque fois.
Et Christophe, quel est votre rapport à la scène quand vous êtes dans la fosse ?
Mon rapport à la scène, c'est que moi j'aime beaucoup le théâtre. Je suis très très passionné par tout ça. J'ai même suivi des répétitions de théâtre pur. Je suis vraiment très très intéressé par tout ça. J'avais même été le metteur en scène de petites scénettes à l'école, etc.
Enfin, j'étais caché ça.
Ah ben oui, mais je dis pas tout moi. Je révèle graduellement. Oui, j'ai cet intérêt particulier et je dois dire que ce qui m'intéresse avant tout, c'est d'enrichir moi, mon univers, mon imaginaire, ma façon de percevoir la dramaturgie, la nature humaine, tout ce qui fait que l'opéra existe en fait, tout simplement. J'ai été très très inspiré par ce que Maria m'a fait à l'opéra, j'étais très inspiré par ce que Pierre Audi a fait à l'opéra avec moi, j'étais pas inspiré du tout, mais tout à fait ébloui par Varlikovsky, dont j'ai absolument pas compris le travail quand on l'a mis ensemble, quoi, ce Médée de Cherubini à la Monnaie, et qu'on fera d'ailleurs au Théâtre des Champs-Élysées l'année prochaine, dans deux ans, je ne sais plus. Enfin bref, toujours est-il que moi j'aime bien participer à l'élaboration scénique d'un spectacle, d'abord parce que je mets mon grain de sel, si je peux.
Heureusement, c'est pour ça qu'on fait de l'opéra.
Voilà, mais de temps en temps, c'est un petit peu difficile de le mettre parce qu'on se rencontre pas forcément très très bien avec un metteur en scène. En tout cas, je veux comprendre de quoi il s'agit de façon à ce que il y ait une synergie. C'est-à-dire que je trouve toujours terrible un chef qui dirige contre une mise en scène ou des chanteurs qui sont tiraillés comme ça entre un metteur en scène qui demande X et un chef musical qui demande Y, et ils sont là en train de se dire qu'est-ce que je dois faire, où me situais-je, comment concilier l'un et l'autre, etc. Donc je trouve évidemment toujours mieux de travailler tous dans le même sens et d'avoir une envie commune et un objectif commun. Ça a l'air idiot, mais malheureusement à l'opéra c'est vraiment souvent des jeux de pouvoir et c'est la musique ou la mise en scène qui gagne, et plus le concept de mise en en scène est audacieux et avancé, plus la musique perd, etc. Moi, je trouve ça tout à fait ridicule. Il s'agit vraiment de faire en sorte que tout ça marche main dans la main. Et du coup, quand c'est le cas, il se passe effectivement des moments tout à fait particuliers qui sont en général très forts.
Et quand vous vous retrouvez face à un metteur en scène, il y en a qui se croient plus intelligents que le musicien et le librettiste et qui veulent couper la moitié d'un opéra et tout changer. Comment on fait dans ces cas-là ? On trouve des compromis ?
Non, moi
on...
j'essaye de comprendre pourquoi. C'est-à-dire que en général, c'est pas juste parce que comme ça, tiens, on va couper. En général, il y a une raison forte, une raison dramaturgique qui fait que cet air est inutile et qu'il faut resserrer, etc. Et donc, j'essaye de comprendre le pourquoi. Si le pourquoi, je le trouve pas, et si on me l'explique mal ou qu'on me trouve pas une bonne raison de couper, alors à ce moment-là, je discute et j'essaye de réintroduire. Je pense que si la raison est forte, elle est forcément adoptée de mon point de vue, parce que moi je suis pas dans un phénomène de création. Je respecte beaucoup le metteur en scène parce que c'est lui qui crée. Moi je suis un interprète, donc je suis pas un créateur. Je suis éventuellement un recréateur. Je suis un prisme. Je suis certainement très important dans le processus, mais je suis pas le créateur. Et donc je me mets toujours derrière le metteur en scène parce que je trouve que c'est lui qui prend des risques beaucoup plus que moi.
On parlait de la danse tout à l'heure, de l'importance de la danse dans l'esthétique de l'opéra français. Dans Castor et Pollux, je crois, vous avez mis en scène les danses.
Oui. Christophe était très réticent au début d'ailleurs, quand je lui en ai parlé. Il m'a dit, mais enfin quand même, toutes ces danses, je crois que tu m'as même soupçonné de ne pas avoir vraiment, vraiment bien écouté la musique. Mais il y en a quand même beaucoup des danses dans Castor et Pollux. Oui, on n'est pas obligé de danser quand il y a des danses. De même qu'on n'est pas obligé sur une scène de chanter pour exister. Et les personnages peuvent continuer à exister en silence, sans chanter, sans danser. Ils peuvent continuer à jouer ce qui se passe dans la scène d'avant, à préparer ce qui se passe dans la scène d'après, ou on peut intercaler d'autres scènes qui sont effectivement pas forcément dansées. Autant dans Platé, j'avais l'impression que le ballet était essentiel à l'œuvre, parce que Platé est vraiment un divertissement, et puis que les ballets qui viennent entrecouper l'action ont essentiellement leur place, parce que cette action est intrinsèquement incohérente, parce qu'elle part dans tous les sens, etc. Autant dans Castor et Pollux, j'avais vraiment l'impression que de la danse perturberait la narration au sens où je l'entendais. Assez naturellement, on a pris le parti de les jouer, d'en faire des flashbacks. Et j'espère que Christophe a été convaincu à la fin. Mais...
J'ai été convaincu, c'est-à-dire que j'ai voulu être dans le concept, et c'est finalement pas tellement à moi à juger. Je veux dire, c'est vraiment... Le directeur musical, quand il est tellement impliqué dans un spectacle, n'a finalement plus vraiment un regard critique, parce que, surtout dans le cas d'une collaboration avec Mariam, où j'aime tellement la personne, je me retrouve pas vraiment à avoir un regard critique, et je préfère que ça soit quelqu'un d'autre qui me le dise, qui me dise, j'étais dans la salle et j'ai trouvé franchement que ça marchait pas, ou que c'était formidable, je sais pas quoi. C'est vrai que quand on est aussi tellement dans la musique, je sais pas, la musique de Rameau pour moi est une musique très très visuelle. Quand je vois simplement un noir et je me dis qu'est-ce qui se passe, rien, et j'aurais envie que ça bouge, ben je me dis que ça marche peut-être pas, mais j'en sais rien. Je veux dire, je suis pas forcément le meilleur juge. Oui, la danse est essentielle. La danse, c'est le mouvement. La danse, c'est disons une des caractéristiques de la musique française au XVIIIe, et l'exclure, c'est vraiment un parti pris extrêmement fort, je dirais. Donc voilà, ça a donné dans Castor quelque chose qui était évidemment très marqué et qui fonctionnait simplement parce que c'était un spectacle qui était d'une puissance très particulière et cinématographique. Exclure les danses de l'opéra français est une chose qui est quand même très périlleuse. J'avais été très sensible par exemple aux Indes Galantes d'Arias à Aix-en-Provence parce que c'était un opéra qui jouait beaucoup sur le divertissement, qui partait aussi un petit peu dans tous les sens, qui avait un côté absurde et tout à fait étonnant, mais qui gardait finalement l'esprit, sans garder la lettre de l'opéra de Rameau, et je trouve ça brillant. Ça a été beaucoup, beaucoup plagié, pas forcément très bien, cette attitude-là, mais ce sont des options, et des options qui sont remarquables.
Mais quand vous mettez en scène la danse, il y a quand même des appuis rythmiques
bien
dans
sûr,
la danse. Alors
bien
il sûr. Faut les... Quand on la met en scène, il faut les fuir pour pas être dans quelque chose de
non,
trop.
Non, pas du tout, au contraire.
Au contraire, il faut.
Non, on peut très bien suivre la musique sans que ce soit dansé. Justement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Quand Christophe parlait de la culture qui était celle du spectateur à l'époque, ou de l'auditeur à l'époque, qui reconnaissait immédiatement les danses, pour moi, c'est très important d'avoir un chef comme Christophe qui peut identifier ça, parce qu'il donne immédiatement à la musique le caractère juste, le caractère qu'il faut. Et la danse, d'une certaine manière, est là, indirectement. Les danses qu'on met en scène sans les danser, elles ont quand même un esprit, elles ont quand même un caractère, elles ont quand même une dynamique, un rythme. Et ça, bien sûr, je le suis dans la mise en scène. Sinon, je ne ferais pas d'opéra.
Et bah, en particulier, il y avait une scène qui était absolument remarquable dans Castor et Pollux, c'était les petits menuets qui ont une espèce de fraîcheur et d'ingénuité tout à fait incontournable, j'allais dire, tout à fait dans la musique, quoi. Et c'était justement des petits jeux d'enfants en flashback qui fonctionnaient de façon tout à fait ravissante, je veux dire. Donc il y a évidemment une...
Là aussi, on peut garder un esprit, voilà, bien sûr.
Et ça change la scansion rythmique dans votre direction quand vous avez...
Absolument pas. D'abord parce que la musique de Rameau est trop puissante pour qu'on arrive à la détourner, que c'est pas possible.
L'incarnation de la puissance de la musique de Rameau, elle se fait peut-être à travers le personnage de la folie. Elle finit par ce coup de génie qui est le chef-d'œuvre de l'harmonie. C'est le chœur qui clôt l'acte 2 de Platée, Hymen, Hymen, que nous écoutons dans une captation d'une représentation à l'Opéra du Rhin en mars 2010. On y entendra entre autres Emiliano González Toro dans le rôle titre, Salomé Allaire, La Folie, etc. Et puis les chœurs de l'Opéra du Rhin.
Et bon,
C'était un extrait de Platée de Rameau, le chœur final du deuxième acte, interprété par les talents lyriques Christophe Rousset à la direction, et c'était une production mise en scène par Mariam Clément. Vous avez dirigé du Mondonville, du Leclerc. Comment on arrive à sortir du désert qu'impose Rameau
Moi, je prends toujours l'histoire de la musique comme un musée, c'est-à-dire que quand on voit un Caravage ou quand on voit un Vermeer, qui sont évidemment des culminations de l'art, on a la chance de pouvoir regarder à côté, de voir un Ribera qui nous éclaire sur Caravage, de voir des Peter de Hoor qui nous éclaire sur Vermeer, etc. De voir éventuellement des relations, des influences, un univers qui est le même sans être vraiment le même, etc. En musique, c'est difficile. S'il y a personne qui vous rend accessible une partition de Royer, une partition de Mondonville ou de Leclerc, comment est-ce qu'on fait pour savoir dans quoi était trempé un Jean-Philippe Rameau, c'est un petit peu désertique, comme vous le dites. Moi, je trouve très important, au contraire, d'entendre ce qui est l'univers dans lequel se situent les grands génies de l'histoire de la musique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, aussi que j'ai sorti tellement de musique napolitaine. Parce que avant de pouvoir faire un Mithridate de Mozart, je trouve qu'il faut pouvoir entendre du Iomeli, de pouvoir entendre du Traetta et du Léo, pour se rendre compte que Mozart n'est pas sorti comme ça du néant et qu'il a été trempé et qu'il a été influencé, qu'il a bien bien imbibé son éponge, parce qu'il a tout épongé en Europe musicale et en particulier à Naples pour pouvoir devenir le génie qu'il a été. Rameau était du même type, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui a certes beaucoup inventé, c'était un immense inventeur, mais c'était quelqu'un aussi qui était héritier d'une tradition musicale, qui n'a pas eu la chance de pouvoir commencer jeune, puisqu'il a fallu attendre ses 50 ans pour pouvoir enfin écrire son Hippolyte Arici, avoir l'autorisation de créer à l'Académie Royale de Musique, alors que beaucoup de gens lui étaient passés devant. Leclerc, lui, a écrit son Scylla et Glaucus après les premiers opéras de Rameau, puisque là, on est en 46, si j'ai bonne mémoire. Mais il récupère, certes, énormément d'éléments raméliens, mais il récupère aussi beaucoup de Lully, curieusement. Et je trouve que sa tragédie lyrique, Scylla et Glaucus, est beaucoup plus proche de Lully qu'elle ne l'est de Rameau, même si la langue est très italienne. Je veux dire, la langue musicale, l'écriture de l'orchestre, extrêmement virtuose, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Rameau, après le Scylla et Glaucus, ça veut dire après 46, écrit de façon beaucoup plus virtuose qu'il ne le fait avant. Et c'est certainement un opéra que Rameau a entendu, qu'il a influencé, qui a fait que on n'écrit plus vraiment de la même façon. C'est intéressant aussi de savoir que, par exemple, quand on a une version un peu tardive d'Hippolyte Arici, donc Hippolyte Arici est réhabillé à différentes périodes de la vie de Rameau. Rameau va carrément introduire à l'intérieur de son Hippolyte Arici un petit tambourin qui est issu du Nice B de Mondonville, par exemple. Donc il va piquer une des œuvres comme ça de ses contemporains et les inclure à l'intérieur même de ses propres œuvres. Donc il y a quand même une interaction de tous ces compositeurs et c'est une chose qu'on oublie un petit peu. On imagine qu'il y a le grand Rameau, mais Rameau avait beaucoup de mal à s'imposer, il était souvent critiqué, il n'était pas le favori de la Pompadour et c'était un grand dommage pour lui. Et Mondonville, qui au contraire était quelqu'un de charmant, était beaucoup plus proche de Pompadour et avait beaucoup plus les faveurs du public et de la cour d'une façon générale, par exemple.
Quel avait été l'accueil réservé à Scylla et Glaucus de
Scylla et Glaucus a été un flop total, et pourtant la musique est absolument somptueuse. Donc, vous savez, les accueils, aujourd'hui même, on se demande ce qui fait que les gens accueillent bien, surtout en France. Je veux dire, la France est un pays quand même qui est beaucoup la mode, les coteries, etc. Et c'était comme ça au 17e, c'était comme ça au 18e, c'était comme ça au 19e, et ça allait rester au 20e. Et on peut pas dire que
c'est
le 21e,
bien parti au 21e.
soit tellement exempt de tout ça. Donc, le jugement d'un public et l'approbation, c'est pas forcément la garantie de la qualité d'une œuvre. Mais effectivement, le Scylla et Glaucus est tombé. Il n'a pas eu les faveurs du public, il n'est pas passé par la case départ, il n'a pas reçu 20 000 au passage, il est allé directement en prison et on n'a jamais repris Scylla et Glaucus, bien que la partition ait été publiée quand même du vivant de l'auteur.
Il a été délivré, et ceci L'Aigle au Cuse, d'abord par John Elliott Gardiner, puis vous l'avez repris en concert à l'Opéra Royal de Versailles en septembre 2005. On va en écouter un extrait, c'est l'air de la Sicilienne, interprété par Salomé Allaire. C'était Salomé Allaire dans l'air de la Sicilienne, extrait de Scylla et Glaucus de Leclerc. On parlait du désert, mais comment on convainc les directeurs de théâtre, de salles, de concerts, quand on a vraiment de l'intérêt pour une œuvre, de sortir ces personnages moins connus de l'oubli, de l'anonymat, ou les amis, l'histoire?
Ben, c'est une chose compliquée, hein, je peux vous le dire. C'est des croisades en général, c'est vraiment très 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 compliqué. À moins qu'ils s'emparent tout à coup de l'idée en face à un fer de lance, comme on a pu le faire par exemple à l'Opéra de Lausanne à une certaine époque, quand François-Xavier Auville était le directeur là-bas. On a pu s'amuser à faire des titres complètement invraisemblables, comme une Capricciosa Corretta de Martini Soler, qu'on a réussi à sortir de l'ombre, faire revivre, non seulement sur scène, mais sur disque, mais aussi on a édité la partition. Donc il y avait vraiment une synergie totale d'un projet complètement hors du commun, avec un livret de Dapontet très très beau, une musique absolument délicieuse, exquise. Ce sont des projets qui peuvent extrêmement bien marcher, et ça avait marché. On avait repris à la Zarzuela à Madrid, à Bordeaux, et c'était à chaque fois un grand, grand, grand succès. Mais ce sont à chaque fois des croisades, quoi. Il faut vraiment se relever les manches et se dire, bon, allez, on se lance dans ce projet un petit peu fou qui est de recréer une œuvre. Ça marche pour l'instant avec Bellérophon. On va voir si on peut arriver à aller jusqu'à la version scénique de Bellérophon. Ça serait une belle réussite.
Mais justement aussi, il faut trouver l'envie chez les chanteurs, parce que si on a par exemple la perspective de deux dates de concert, il faut se jeter dans une partition complètement inconnue.
Moi, ça m'est arrivé très très souvent de voir des chanteurs qui arrivaient en disant pouf, là, là, c'est c'est oublié, il y a de bonnes raisons que ça soit oublié, et puis de finalement les convaincre, et puis qu'ils soient finalement à la fin de tout ça, très très fiers d'avoir été les recréateurs de ce chef-d'œuvre oublié. Donc il y a un travail de conviction, de séduction. C'est à moi évidemment à être le plus convaincu de tous et les gonfler tous pour que l'accouchement soit heureux. Il y a, par exemple, quand on fait un opéra de Mozart, un Così fan tutte, une espèce de tradition comme ça, où on sait comment on gère vocalement, on sait comment on peut mener un personnage de Fiordiligi d'un bout à l'autre. On a maintenant une idée, quoi, quelque chose qui sort d'une espèce de tradition des choses. C'est sûr que quand on fait un Salieri, par exemple, un chanteur ne sait pas du tout où il va. Il a pas forcément même lu ce que raconte l'interlocuteur en face. Il n'est pas au courant de la façon dont les choses s'enchaînent et quelle est l'existence de son personnage, comment vocalement gérer une difficulté particulière, etc. Il a pas l'exemple d'un grand chanteur de l'histoire de l'opéra qui lui dit comment il faut faire. Donc c'est à lui à trouver les solutions, ou à moi, et de le guider et de le passionner, de mettre un petit peu les braises dans le slip, et puis de finalement faire que le personnage prend feu. Et je pense que c'est mon but. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est que effectivement ces belles endormies reprennent vie et qu'elles existent et qu'elles séduisent, surtout.
Mais oui. Je veux dire que Christophe a un talent quand même remarquable pour ça, parce que finalement c'est un peu la même chose quand on a fait Castor et Pollux à Vienne. On avait des chanteurs, bon, Castor et Pollux n'est pas une œuvre oubliée, mais on avait des chanteurs dont c'était pas tellement le répertoire de prédilection, et j'ai vu en direct la manière dont Christophe les a initiés à ce répertoire et a raffiné peu à peu leur chant, les a initiés à la musique française, au chant français, à la manière de chanter du récitatif, de chanter du rameau, de faire sortir le texte, des gens dont c'était pas la langue maternelle en plus. C'était extraordinaire. Enfin, il avait fait les trois quarts de mon travail de metteur en scène déjà, et j'ai beaucoup appris d'ailleurs comme metteur en scène. Mais c'était le même travail de conviction, de séduction, d'érudition aussi, qu'il faut, je pense, pour des œuvres inconnues.
Par exemple, quand Dominique Meyer avait initié un cycle autour des différentes mises en musique de la Brockes Passion, auquel il vous a associé avec la version de Kaiser, est-ce que l'idée venait de lui?
L'idée venait de lui complètement. Et moi, Kaiser, c'est un compositeur que je connaissais surtout par l'opéra. Il y en a un petit nombre qu'il faudrait faire. D'ailleurs, c'est vraiment de la musique formidable. Donc l'idée venait de lui. Ça m'a tout de suite intéressé. Je suis allé voir la partition. J'ai trouvé ça épatant, et je me suis vraiment dévoué à ce répertoire-là. Et j'aime bien l'inédit. On l'a dit, on le répète. Ça me stimule. Et d'une façon générale, moi, je m'ennuie assez facilement, et quand je m'ennuie, c'est mauvais signe. Donc il faut absolument que les choses bougent. J'ai plein de façons d'arriver à faire bouger les choses, et donc je tire sur tous les jeux pour que effectivement il y ait vitalité, il y ait intérêt. Et effectivement, quand on a un texte, déjà on a beaucoup de chance, parce que quand on fait du clavecin par exemple, on peut s'ennuyer très vite parce qu'on n'a pas de texte, on n'a pas de possibilité de chanter, on n'a pas de possibilité, etc. Donc forcément, le clavecin et le monde aride entre guillemets du clavecin fait que on surdéveloppe un imaginaire, et cet imaginaire, évidemment, moi, il me sert énormément dans mon travail de chef chef d'équipe.
Il y a la musique dite baroque, mais vous élargissez de plus en plus votre horizon. Bon, il y a évidemment Mozart qui est un grand pôle là-dedans, mais vous êtes allé aussi plus loin. On parlait tout à l'heure de l'Amédée de Cherubini. Il y a un concert avec des symphonies de Beethoven à venir. Vous accompagnez Véronique Gens dans son parcours des tragédiennes, puis enfin ses héroïnes romantiques que vous vous apprêtez à enregistrer. Ça ne vous suffit plus, la musique baroque ?
Ben, j'allais dire que c'est un petit peu comme pour les auteurs un petit peu inconnus. Je pense qu'on enrichit son imaginaire au contact d'autres façons d'aborder la musique, de la concevoir. Quand on a fait le volume 2 de Tragédienne avec Véronique, il y avait un extrait des Troyens de Berlioz. J'avais regardé ça avec un petit sourire en coin en me disant... Je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire d'une musique pareille qui est vraiment pas la mienne et dans laquelle je me retrouve pas du tout. Et puis, le fait d'être les mains dans le goudron, quoi, j'avais vraiment tout à coup une joie absolument infinie à manipuler, à façonner une matière sonore qui était complètement différente et qui m'a, moi, appris plein de choses. Je veux dire, j'étais vraiment fasciné de voir que quand on ne traite pas l'orchestre comme j'avais l'habitude de le voir traité, avec cette filiation très très claire, hein, je veux dire, de l'Italie essentiellement napolitaine, qui a après essaimé à peu près sur l'Europe entière, en passant par Londres, Saint-Pétersbourg, Mannheim surtout, évidemment, Vienne, etc. Et puis tout à coup, quand on se retrouve avec Berlioz, on a autre chose. C'est autre chose et c'est une autre matière sonore. Alors on peut toujours dire oui, c'est Rameau, oui, mais non, pas du tout en fait. C'est pas du tout Rameau. Il y a vraiment quelque chose du point de vue de la texture instrumentale qui n'est pas Rameau du tout, qui tout à coup apparaît comme ça, une espèce de ça naît de façon tout à fait inouïe. Et donc oui, dans ces héroïnes romantiques, il y aura du Verdi, il y aura du Massenet, il y aura du Saint-Saëns. Et j'ai commencé à travailler et j'ai commencé à lire ça avec les cordes de mon orchestre. Et tout à coup, oui, effectivement, il y a autre chose. Je sais pas ce que j'en ferai moi du point de vue de la musique baroque et du répertoire, du centre du répertoire des talents lyriques, parce que évidemment, on va pas devenir les spécialistes de la musique romantique. Je n'ai pas du tout cette ambition là, ni cette volonté. Mais je pense qu'on y trouve quelque chose. En tout cas, moi, j'y trouve quelque chose. Je vois aussi l'enthousiasme avec lequel mes musiciens se lancent là-dedans. Je pense que ça ouvre l'esprit, ça ouvre les sens d'une façon générale et ça peut pas être négatif. Donc, c'est ça que j'y trouve avant tout. Je peux pas dire que j'en ferai l'essentiel de mon répertoire, non.
Mais il faut aussi des effectifs plus importants.
Oui, ce sera le cas.
Où est-ce que vous allez chercher les musiciens, du coup, qui...
C'est essentiellement les mêmes, simplement dans une version plus élargie, parce qu'évidemment, les talents lyriques, ce n'est pas ceux qui ont fait Platé ou ceux qui ont fait Alcina. C'est plein de gens qui, parfois, ne sont pas libres, alors il faut aller chercher ailleurs, etc. Donc, c'est un pool de musiciens et certainement, dans Héroïne romantique, on aura encore plus de musiciens. Évidemment, on ne va pas prendre les spécialistes de Monteverdi pour jouer Massenet, mais je recrute toujours mon orchestre, puisque ce sont des intermittents du spectacle, il faut le rappeler, on y tient beaucoup. Ces intermittents sont plus ou moins spécialisés dans certains types de répertoires, et évidemment quand je fais du Cherubini ou du Massenet, je prends des gens qui sont plus adaptés à ce type de répertoire.
Et votre vision du son, est-ce qu'il y a un noyau sonore qui demeure ou... Par exemple, dans la Médée, il y a un noyau sonore très caractéristique,
oui,
qui demeure, même si, oui, même si c'est plus ample. Plus...
Oui, oui, j'ai un univers sonore qui est le mien. Je veux dire, c'était très, très étonnant d'ailleurs dans Bach, quand j'ai abordé cette passion selon Saint-Jean, j'avais des musiciens de mon orchestre qui apparemment ont fait beaucoup, et peut-être beaucoup plus souvent que moi, la passion selon Saint-Jean, et qui voulaient m'amener dans des directions qui n'étaient pas celles que je voulais. Et donc, à chaque fois, je leur disais non, C'est pas ça. C'est pas ça que je veux. Il faut jouer autrement chez moi ou pour moi. Donc j'ai une idée extrêmement précise du son que je veux recréer, que je veux façonner. Et c'est pas mes musiciens qui vont me dire ce que j'ai à faire. Je sais exactement. J'ai mon univers. Ce qui se passe effectivement quand on est jeune chef et quand on est chef un peu plus vieux, parce que je viens de fêter mes 50 ans, donc je suis un petit peu plus, expérimenté, c'est que quand on est jeune chef, on se laisse faire par les musiciens qui sont là sous vos ordres. Parfois, on ne sait pas comment intervenir et comment façonner. Et plus ça va, plus on sait et plus on est directif, en fait, tout simplement. Et donc, je pense qu'avec
C'est exactement la même chose en mise en scène.
C'est la même chose, on se laisse faire. Et puis jusqu'au moment où on dit non, c'est pas du tout ça que je veux, j'ai une toute autre idée. Et on ne se laisse plus faire. Et je pense que... Si les musiciens nous suivent, c'est aussi parce que ils sentent qu'il y a quelque... Enfin, vous voyez, je veux dire, ils s'y retrouvent aussi. Moi, j'ai été aussi malmené par des chefs où je me dis, oulala, j'ai pas du tout envie de faire ce qu'ils me disent de faire. Mais ce qui est merveilleux, c'est quand justement un chef vous amène vers quelque chose que vous n'auriez pas fait naturellement et qui finalement vous ouvre, vous, en tant que musicien d'orchestre, vers des choses qui vous enrichissent et qui vous ouvrent de nouvelles perspectives d'une musique. Alors là, oui, et c'est ce que j'essaye de faire. On parlait de séduction tout à l'heure, je pense ça passe par une séduction, c'est-à-dire leur montrer, hein, leur ouvrir une boîte et leur dire, voilà, regardez comme c'est beau là, quand vous allez par là. C'est là qu'on va aller ensemble et... C'est cet émerveillement commun qui fait qu'on va ensemble dans une nouvelle voie.
On écoute le son Rousset dans le prélude du deuxième acte de Médée de Cherubini qui a été enregistré au Théâtre de la Monnaie en avril 2008. C'était un extrait de Médée de Cherubini, interprété par les Talents Lyriques, dirigé toujours par Christophe Rousset, dans une captation d'un spectacle de la Monnaie qui sera repris au Théâtre des Champs-Élysées, non pas la saison prochaine, mais celle d'après, dans une mise en scène de Christophe Warlikowski. Le concert emblématique des 20 ans des Talents Lyriques, avec une tournée, c'est Farinelli. Depuis l'aventure musico-technologique du film, où deux voix étaient mélangées, celle d'Eva Malas-Godlewska et celle du contre-ténor Derek Liragin, vous avez trouvé une seule voix pour pouvoir chanter ces airs complètement fous, c'est celle d'Anna Lundberg. Farinelli, ça tient du mythe. Comment est-ce qu'on s'approprie un mythe ?
Que répondre à ça? On fait de l'approximation, forcément. De toute façon, le castrat, ça n'existe plus. Heureusement pour eux, d'ailleurs. Tant pis pour nous, on va dire, mais évidemment, on peut pas non plus faire des choses aussi horribles. Ça, c'est un chapitre clos. Il existe un répertoire, qui est un répertoire magnifique. Il existe un mythe qu'on a envie de faire revivre. Pour un film ou pour une bande sonore, on peut s'amuser effectivement à traficoter des éléments disparates pour en faire une chose inouïe. Et pour faire de l'inouï en concert, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas les moyens de la l'IRCAM. On peut difficilement faire des relais comme ça, comme on les a fait sur la bande son. Donc, il faut trouver l'ambitus vocal qui correspond à celui de Farinelli, qui est un ambitus très large, et une vocalité, un style, cette habileté à faire beaucoup, beaucoup de notes rapides, etc., et puis d'avoir un spianato incomparable, etc. Je me souviens qu'à l'époque du film, Corbio avait approché René Jacobs. Si René Jacobs n'a pas fait la bande-son de Farinelli, c'est parce qu'il a dit, de toute façon, il y a une fille qui peut chanter la voix de Farinelli, et une seule, c'est Cecilia Bartoli, si vous la prenez pas, moi je fais pas le projet. Et donc effectivement, ça ne s'est pas fait, et tant mieux pour moi. Son idée à lui déjà à l'époque, c'était ça. Nous, on n'a pas les moyens de se payer Cecilia Bartoli, c'est évident, pour faire notre tournée 20 ans, mais c'est évidemment ce type de voix, c'est-à-dire une voix qui a un ambitus extrêmement large, qui a cette vocaliste très très facile et qui a un style. Et Anne Hallenberg, ça fait un moment maintenant qu'on travaille, on l'avait eu pour la première fois dans la production de Xerxès avec Michael Hampe à l'Opéra de Montpellier, qui est d'ailleurs devenu un des premiers DVD qui était sorti sur le marché à l'époque des premiers DVD d'opéra. Et Anne Hallenberg, à chaque fois que j'ai travaillé avec elle, c'était éblouissant, et j'ai pensé que c'était certainement elle qui était la voix la plus proche de ce que pourrait être aujourd'hui un Farinelli. Alors pourquoi pas un falsettiste, pourquoi pas un Jarouski, etc. Oui, effectivement, pourquoi pas. Simplement que les falsettistes, moi je reconnais que c'est fascinant et que ça donne sans doute cette confusion des sexes qui est la fascination que le castrat exerçait aussi au 18e. Mais il y a, du point de vue de la puissance et de la vocalité, du bel canto justement, quelque chose que je trouve plus satisfaisant dans une voix de femme, parce qu'il y a un spectre sonore qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus large, une flexibilité de la voix qui est beaucoup plus évidente dans une voix de femme. Et je reprends toujours le même exemple, c'est-à-dire que Handel, quand il est à court de castrat, il ne fait pas appel à un falsettiste, il fait appel à une voix de femme. Le meilleur exemple, c'est le rôle de Medoro dans Orlando, où il a été en panne d'un castrat italien, et qu'est-ce qu'il fait? Il prend une femme, et c'est une femme qui chante le rôle de Medoro à la création de l'Orlando à Londres.
Alors cette tournée Farinelli, elle débute le 9 mai au Théâtre des Champs-Élysées, ensuite une halte au Théâtre de Caen le 10 mai, le 13 mai au Théâtre d'Orléans, le 17 à l'Arsenal de Metz, puis vous reprendrez ce concert à l'étranger, mais aussi au Festival de Beaune le 17 juillet, et enfin au Beaux-Arts à la salle Henri Leboeuf à Bruxelles au mois de novembre. Il y a aussi sur votre agenda cet été ses héroïnes romantiques avec Véronique Gens le 20 juillet à Aix-en-Provence, un programme donc que vous enregistrez, et puis le rendez-vous est pris à la Monnaie pour septembre avec la reprise de Médée dans une mise en scène de Christophe Warlikowski, et puis aussi j'en parlais tout à l'heure toujours à la salle Henri Leboeuf au Beaux-Arts à Bruxelles, un programme autour de Beethoven. Ça, c'est le 14 septembre. Dans votre actualité, il y a aussi, bien sûr, la parution de Bellérophon chez Aparté. Merci d'avoir été avec nous, Christophe Mousset et Mariam Clément. Merci. Je remercie toute l'équipe des Talents Lyriques qui s'est mise en quatre pour que nous puissions préparer cette émission et que nous puissions accéder aux archives. Je remercie aussi Francis Malek qui captait l'émission, et on se quitte avec un air extrait de la Betulia Liberata de Mozart avec Anne Hallenberg qui sera donc votre Farinelli. Elle interprète ici le rôle de Judith. suite dans l'air Parto inerme et elle est accompagnée par les talents lyriques sous la direction de Christophe Rousset. Merci et à bientôt.